Allô, bonjour, bonjour. Je me présente. Je m'appelle Coralie Dubeau et je suis humoriste et curieuse de nature qui adore parler avec des personnes, connaître des nouvelles choses. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast-là parce que ben, ça me permet de connaître un peu plus mes collègues de travail, hein, les humoristes. Puis, ça me donne aussi une excuse pour leur montrer mon beau chez moi en même temps, puis mes chats. Donc, vraiment contente de t'accueillir dans mon podcast. Merci encore d'être là, de m'écouter. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment un épisode de feu avec un humoriste vraiment drôle. Il s'appelle Steven Bilodeau. Donc, il vient de Québec. Très attachant, tu vas le remarquer. Ensemble, on a vraiment parlé de tout, là. C'est vraiment un homme ouvert. On a parlé d'émotions. On a parlé de la série télé Si on s'aimait, qui était populaire à ce moment-là, là, avec le fameux Guillaume Lemaitre-Vierge et sa nouvelle concubine. Ben, ça fait longtemps qu'elle sort avec, mais. Donc, une série télé qu'on a toutes les deux bien aimé regarder puis qu'on a pu échanger là-dessus. On va vous en parler d'ailleurs plus davantage de ce concept. Donc, vraiment contente de t'accueillir, puis j'espère que tu vas passer un bon moment. Je m'appelle Coralie Dubeau, je suis humoriste et je te souhaite bonne écoute. Bonjour Steven!
Bonjour Coralie!
C'est jamais normal quand je commence,
Non, non. C'est toujours awkward.
Oui, c'est
Ok,
toujours
parce que j'aime
awkward.
ça quand c'est awkward. Et puis là, on va informer les auditeurs que ça fait
Oui.
2 heures qu'on jase ensemble.
Oui.
Donc on n'a plus rien à se dire. C'est ça
Non,
qui est le fun.
c'est ça. L'épisode est déjà fini. Vous avez manqué le meilleur.
Ouais, mais merci d'avoir été là et on se revoit à l'année prochaine.
Oh my God, bon.
Mais merci
Ah,
de me
super.
recevoir sur ton podcast.
Écoute, merci à
C'est un
toi,
privilège, hein,
Steven.
pour un humoriste de participer au podcast. Puis je pense qu'on ne dit pas assez à quel point c'est généreux pour les gens qui ont un podcast de nous inviter à se
Oui.
faire découvrir par leur fans, leur public.
Ben oui,
Merci.
écoute, je suis contente. Moi, c'est le contraire, là. Je me sens tellement choyée d'avoir du monde comme toi qui veulent participer à un projet qui accorde du temps, tu t'es déplacée, tu sais, c'est pas à côté, là, Terrebonne, on va se le dire, là. Fait que c'est de la route. Fait que c'est vraiment, moi, c'est de la reconnaissance pour t'avoir déplacé, du temps que tu me donnes. Puis dans ton style d'humour aussi, je t'ai invité, je trouve ça le fun parce que tu fais du roast, j'appelle, de l'humour noir. Puis c'est quelque chose que
C'est
peut-être.
vrai, c'est ça que je fais.
Ben, je trouve que j'appelle ça du roast, mais peut-être pas. Tu sais, là, t'es capable de te moquer, exemple, de Safia Nolin. Mais c'est comme bien, on
Là,
s'en.
tu sais qu'en partant, tu
Ça.
viens de me mettre sur un terrain glissant.
Oh non, pour vrai?
Avec, oui,
Ah!
parce que je vais mettre les gens dans le contexte.
On va couper au pire si tu
Ben
veux.
non, mais non, c'est pas vrai.
Je
Non,
vais couper.
j'assume ce que je dis, mais en fait, j'ai rien contre Safia. Au contraire, je trouve que
Oh
c'est une
non.
artiste incroyable. Mais une des blagues que je faisais, c'est que dans ma présentation, je dis que je suis un homme qui vit à Ottawa, mais j'ai grandi à Québec, comme Safia Nolin, j'ai grossi à Limoilou. C'est juste factuel, le fait que tout le monde connaît Safia Nolin, connaît pas moi. Tout le monde sait que je suis gros et que maintenant, ils font une association où est-ce que j'ai pu grossir. Mais oui,
Oui.
j'aime ça être polarisant. Mais tout ce que je dis qui peut être polarisant, c'est pas des choses nécessairement que je pense ou qui sont appuyées d'une intention malveillante. Au contraire, je serais choyé d'avoir Safia Nolin en première partie de mon one-man show.
Ça serait très drôle de voir Safia Nolin.
Ça serait le fun.
J'aimerais ça
Je suis
voir.
certain que Safia est très
Ça
drôle
serait
aussi.
la bonne. Ouais, je suis sûre, moi
Dans
aussi.
son style d'humour, qui est probablement pas de l'humour noir.
Non,
Je sais pas.
je sais pas. Faudrait demander. Je pourrais
Oui.
y écrire. Si tu pouvais être un humoriste, ce serait quoi ton type d'humour, par curiosité?
Oui. Ou est-ce que l'humour t'intéresse?
Ouais,
Ça, c'est la
ah
première
ouais, c'est.
question.
Ah oui, j'avoue.
Je sais pas, si, parce que j'ai l'impression que sa démarche artistique est souvent mélancolique, souvent dramatique, puis tu es la bonne personne pour juger de ses œuvres. Là, tu travailles là-dedans. Et je suis pas nécessairement attiré par quelqu'un de mélancolique ou est-ce que ses œuvres sont tristes. Je suis quelqu'un qui aime ça rester dans la lumière, dans le joyeux, mais je peux reconnaître qu'elle a énormément de talent.
Très, très.
Et je souhaite que cette... des fois, cette antipathie-là qu'elle peut avoir avec certaines personnes du public s'estompe avec le temps, puis qu'on voit juste le positif en arrière de sa création. Anyways, je t'ai amené sur une autre.
Oui, j'étais quand. Ben, on aime beaucoup les artistes québécois, hein, pour ceux qu'on on aime en parler. Ouais. C'est des sujets des fois polarisants, des bons référents. Ben, c'est justement ça, tes blagues qui font des bons référents. Des bons référents aux artistes québécois.
J'aime beaucoup faire des name drops.
Ouais.
J'aime beaucoup ça. Puis je trouve que c'est quelque chose qui est. Je trouve que c'est quelque chose que les gens réagissent beaucoup quand on parle de personnalités connues ou d'une situation de l'actualité. J'ai toujours l'impression que ça va chercher un petit peu plus les gens quand on fait référence à une personnalité publique.
Totalement, parce que ils savent qui c'est, puis ils peuvent se poser, ben ils peuvent se dire ah, ok, tu sais, au moins avoir le bon référencement, ça fait en sorte que on dirait qu'on est plus inclus, c'est plus inclusif l'humour au Québec.
Il y a une image qui vient avec ça, il y a une saveur, il y a tout un contenu qui fait pas nécessairement partie de la blague, mais qui peut renforcer la blague en soi.
Le punch est vraiment plus là.
Oui.
Aïe, aïe. Puis aussi, t'as fait l'humour 4 saisons, là, aussi, à Gatineau.
J'ai fait la première production télé. Bravo. Merci bravo. Beaucoup. La deuxième saison de les 4 saisons de l'humour TV, ça a été tourné à Brasserie 1844 dans la région de Castleman, en Ontario. Très, très fier de cette production-là. Très fier, puis privilégié d'avoir été capable de présenter un 10 minutes de stand-up sans nécessairement avoir eu des avocats qui sont passés au travers de mes textes. Donc, j'avais une forme de carte blanche sur mes propos, sur les blagues que j'allais raconter sur scène, mais qui allaient être, après ça, diffusées sur TV1 et Belle Fibre. Éventuellement, j'aimerais ça que ça soit vendu à un grand canal, mais on n'a pas de contrôle là-dessus. Très, très content de l'expérience avec l'équipe de production. Ils ont été très professionnels. Les humoristes qui ont fait la production avec moi, de grands talents. Et on est tous très fiers aujourd'hui d'avoir cette captation télé-là.
Mais surtout aussi, tu as des beaux projets qui viennent en ce moment parce que ben, tu t'es déjà fait. Tu as eu ton show d'humour. Je suis en train d'enregistrer. Oui, mais c'est correct, on peut la laisser, là.
Ça, ça donne un côté très humain.
Ah oui, on va avoir juste une créature de l'ombre qui va passer dans la captation, mais c'est pas grave. Oui, c'est vrai, tes beaux projets, là, ça s'est bien passé, ton show d'humour sur, ben, c'était la première fois, là, la retraite. L'heure de la retraite a sonné.
Qui est mon one-man show, qui se veut évolutif. Depuis 2020 que ce spectacle-là est au monde, mais c'est un spectacle... Comme je l'ai mentionné, qui se veut évolutif. Donc, si on voit le premier spectacle, puis on le voit aujourd'hui, ben déjà, le spectacle a changé, a évolué. Avec moi, avec mon contenu, avec mes propos, les blagues que je trouve moins pertinentes aujourd'hui sont retirées du spectacle, sont remplacées par d'autres choses, parce que je suis toujours en train d'écrire, de produire des capsules humoristiques, qui, après ça... il y a du contenu qui va être adapté pour la scène, pour le stand-up. Fait que c'est, je suis très, très fier de ça, tôt dans ma carrière d'humoriste de la relève, de produire en 75 minutes. Mais je suis allé avec la demande. Les gens avaient envie de me voir sur scène plus longtemps. Et c'est une des façons que j'ai trouvé d'aller à la rencontre de ceux qui voulaient en avoir un petit peu plus de moi, de produire ou de payer... quelqu'un pour produire mon spectacle là, dans une ville ou dans un autre.
Oui, parce que t'as fait Poutine Bar, Limoilou, j'ai Pontiron là, dans ma tête à Québec, mais c'est pas ce nom-là.
Ah, j'ai vu Pont-Briand?
Oui, Pont-Briand,
c'est ça. Oui, qui a fait la production de ma grande première.
C'est ça, oui.
À Québec, à la salle au Bourgneuf.
Aïe, aïe.
C'est de là que j'ai réalisé, parce que la première fois c'était un premier 60 minutes que j'avais sorti dans ce temps-là. Je voulais voir c'était quoi la réaction du public, parce que oui, dans la salle, tu as des amis, tu as de la famille, c'est souvent la première représentation et pas nécessairement le reflet de ce que tu peux produire sur scène, mais étant donné que c'était une belle grande salle, j'avais aussi plusieurs personnes qui ne me connaissaient pas, qui ont décidé de venir me découvrir, et les commentaires ont été très très bien. Ça m'a donné confiance de poursuivre cette démarche-là, puis d'offrir ce produit-là aux gens qui est de toute évidence en évolution.
Mm-hmm. Comme mais là, tes capsules humoristiques aussi, tu fais des belles capsules humoristiques de ouais. Sergent Steve.
Cette année, je me suis associé avec la Fondation Le Balancier, mm-hmm. qui œuvre auprès des vétérans des Forces armées canadiennes, qui vont leur fournir un paquet de services ou vont les rediriger vers les services. Et la Fondation Le Balancier a un podcast à chaque mm-hmm. semaine, le mardi à 6h30, qui s'appelle « Dévette le soir ». Et ils m'ont invité à faire une capsule humoristique à chaque semaine. Donc, à chaque semaine, j'écris entre 2 minutes et demie et 5 minutes une capsule humoristique sur un sujet que j'ai choisi. C'est pas nécessairement en fonction de l'actualité, mais j'aime beaucoup parler d'actualité, mm-hmm. puis des enjeux sociaux. Mais que tout ça est très léger et j'ai du plaisir à présenter un personnage qui s'appelle Sergent Steve. Mm-hmm. Qui est essentiellement moi avec un casque de la Deuxième Guerre mondiale sur la tête.
C'est excellent.
Oui. Et j'essaie d'être aussi amusant qu'engagé. Mm. Je me donne l'opportunité à ce personnage-là d'être un petit peu plus engagé que moi je peux l'être sur scène. On avance, mm-hmm. on se développe oui. au travers de ce personnage-là également.
Mais je trouve ça quand même drôle parce que tu dis être plus engagé sur en ligne dans ma tête. En ligne, c'est tellement de portions, ça peut aller loin dans le sens, tandis qu'en public, tu sais, si admettons, c'est des sujets, je sais pas, controversés, ben là, ça reste avec ton public, tandis qu'en ligne, tu sais, ça peut être quand même... Fait que je trouve ça drôle.
Oui, t'as raison. La portée pourrait être plus grande parce que, justement, elle rejoint un plus grand nombre de personnes. Allô?
Oh, c'est moi!
Mais non.
Oui, Mimi! Oups! C'est Mimi!
C'est là. Toute la COVID est venue sur moi. Je suis allée sur toi. Attends, ça.
Okay.
T'es correct?
Oui, c'est correct. Okay. C'est juste que t'es chambranlant déjà. À la
fin du podcast, je vais parler à ton père.
C'est OK, good. OK, on va avoir...
Es-tu correct?
Oui, c'est good. OK.
Okay. On va avoir 1000 vues juste pour ça. C'est la façon...
Non, ils sont pas!
Non, il est correct.
J'ai pensé que je fermais les yeux, ça allait annuler l'épisode. OK.
Non, il est...
OK, ça va.
C'est un chat.
Okay.
Et pour ceux qui ne savent pas, Coralie et son amoureux ont rescue, réchappé,
un chat errant.
Puis son comportement est super pour un chat errant. Il n'a pas l'air du tout d'un chat errant. Finalement, Coralie l'a volé à son voisin.
Oui, c'est ça. Il s'en occupait pas assez, fait que je l'ai volé.
Puis là, il a fait allumer les lumières les lumières d'urgence.
Oui.
C'est un super chat.
Ah, mon Dieu, super. Oui, Steve.
Dans mon personnage, Sergent Steve, t'as raison, la portée pourrait être plus grande, mais j'ai l'impression que... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que dans le fond, je pourrais, sur scène, être davantage engagé dans mes propos, ou pas revendicateur. J'aime pas ça, revendicateur, parce que tu revendiques pas parce que t'as une opinion ou t'as une façon de penser. Je pense comme tout le monde, quand on discute avec les gens, des fois, on peut véhiculer certaines émotions au travers de prises de position. Je pense que c'est ce que ce personnage-là me permet de faire.
Ah, OK. J'aime
ça. Mais tout en restant amusant. Oui, parce que le but de l'humour, c'est faire rire.
Mm-hmm. Fait que c'est pas... C'est le véhicule... Le personnage, ça te permet tellement de véhiculer des messages que même toi, peut-être, des fois, tu penses pas vraiment, mais qu'il y a comme un entonnoir, ça fait un bon entonnoir entre toi et le public.
Oui. Mais tu sais, souvent, dans les spectacles, tu ne voudras pas laisser les gens sur certaines réflexions. Dans la capsule humoristique, tu peux le faire. Mm-hmm. Parce que les gens sont plus dans le contexte une fois que la capsule est écoutée. Tu sais, ils sont plus... Pour être émotionnellement déstabilisés, chez eux, ça ne dérange pas. Dans une salle, il faut que tu récupères cette déstabilisation-là que tu as provoquée.
Mm.
Comme dans mes premiers spectacles, j'expliquais le pourquoi je faisais de l'humour. Puis, une des choses que je mentionne, c'est que je suis atteint d'un syndrome post-traumatique et que la scène me fait du bien. Mais la minute que je rentre dans ce sujet-là, dans le spectacle, trop tôt, des fois, ça peut être difficile pour moi de ramener tout le monde à dire « c'est pas grave, tu sais, c'est une condition avec laquelle je vis, je vis bien aujourd'hui au travers de tous les psychothérapies que j'ai pu faire. Ça fait partie de ma vie, mais c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de faire ça. » Donc, tu veux informer les gens, mais les gens, il y en a beaucoup qui ont beaucoup de sympathie, ont beaucoup d'empathie pour ce que tu as vécu ou du mal dans lequel tu es atteint. Mais c'est vraiment juste à des fins informatives. Mm-hmm. Donc maintenant, je le place un petit peu plus loin dans le spectacle. Mm-hmm. Comme ça, c'est plus facile pour moi si les gens tombent vraiment beaucoup très empathiques ou sympathiques envers mes propos, mais c'est plus facile à récupérer quand il y en a un petit bout de fait.
Quand, mettons, une fois que tu t'es présenté, que là, ils savent un peu ton style d'humour, là, tu peux, par la suite, plus les rentrer facilement dans ton univers. Mm-hmm. C'est ça qui est...
Surtout qu'au début, quand les gens ne te connaissent pas, puis souvent, je vais vendre des billets de spectacle à des gens qui ne me connaissent pas. Est-ce qu'il est fragile? Es-tu OK avec ça? Fait que les gens, systématiquement, veulent que je réussisse, veulent que je sois dans un bon mood pour le spectacle. Et quand les propos viennent trop vite, j'ai appris que c'était pas contre-productif, mais que j'avais moins de succès que si je le plaçais un petit peu plus loin. Donc, dans mon spectacle, la mise en scène, c'est une des choses aussi qui évolue.
Mm-hmm.
Et bien sûr, les textes, en fonction de ma formation continue, mon expérience, mes projets.
Tes beaux projets. Puis là, en plus, là, aujourd'hui, je t'ai emmené parce que moi, je veux te connaître à l'extérieur de ta profession. Mm-hmm. Fait que là, je t'avais envoyé une liste de 10 questions avant notre rencontre.
Puis là, tu sais que j'ai grossi à Limoilou.
Ah oui, ça, là, je sais. Là, c'est fait. Là, Limoilou, t'as grossi, on accepte.
Ouais. Ça serait quoi le pendant de Limoilou sur la rive nord de Montréal?
Le pendant de Limoilou, c'est une bonne question parce que c'est pas tout.
Ça serait-tu Saint-Eustache?
Ouais, c'est quand même parce que c'est vraiment une zone qui est vraiment pas ville là, c'est plus régional.
Ouais, plus rural.
Rural, ouais. Saint-Eustache, peut-être la plaine à Terrebonne, je sais pas, y a-tu beaucoup. Il y a des champs, des grandes maisons ou qu'il y a des grandes cours là.
Ouais,
je pense que ce serait peut-être la plaine.
Si on monte plus loin que Saint-Lin.
Ouais, Saint-Lin. Ouais, Sainte-Sophie.
Est-ce que c'est plus loin que Saint-Lin?
Oui, c'est plus loin que Saint-Lin, okay. Sainte-Sophie.
Ça, c'est de l'information. Tu vois que tes auditeurs vont avoir hâte d'avoir.
Wow, OK. C'est bon. Comme ça, ils peuvent savoir que Limoilou, par rapport à leur zone. C'est vrai, t'as sauté. Si tu veux, je peux.
Non,
good s'il donne de l'amour. Okay, c'est ça qu'elle veut, à vrai dire, depuis tantôt. Là,
zoothérapie.
Elle fait ça. Là.
C'est un podcast avec chat.
Oui, c'est ça.
Un podcast zoothérapie.
Ah, c'est excellent.
C'est cool.
Oh.
Ça.
Ah, elle a l'air bien.
On s'est trouvé.
Ah oui. Ah, oh, affectueuse comme ça, là, on en veut plus des chats comme ça. Oh. C'est excellent.
Ils disent que toutes les vidéos avec des chats ont plus de sympathie, plus de vues que les autres.
Même que les chiens?
Même que les chiens, je pense. Sur la web?
Oui. Ah, c'est pas savoir.
Je sais pas.
J'étais en train de te croire. Non, là, j'étais. Ah, ouais. Je regarderai. Je suis curieuse de savoir.
Là, j'étais encore écartée, mais t'avais trois grandes questions que j'ai choisies. Je trouvais ça intéressant aussi que t'aies un podcast qui allait ailleurs.
Mm-hmm.
Qui allait ailleurs, puis au fil des épisodes, les artistes que t'invites vont. T'sais, vont choisir quand même le même type de question. Donc, c'est intéressant de voir comment les gens vont l'aborder, comment qu'est-ce qu'ils vont amener de différent face aux sujets qui sont similaires d'un artiste à l'autre. T'en avais 10, hein, je pense?
Oui, c'est ça, j'en avais 10.
Il fallait en choisir 3.
Fait que souvent, comme tu vois,
il y a... Moi, j'ai choisi où est-ce que j'ai été né et où j'ai grandi. Ça, c'est fait.
Oui, c'est ça. Là, maintenant, on sait où est-ce que t'es né, où est-ce que t'es grandi. Mais là, nous, on veut savoir, une de tes questions, justement, c'est un idole, une personne que t'admires.
OK.
C'était bien ça. Ouais, oui, oui.
Étant donné que ça fait partie de l'actualité et puis c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Moi, je suis un homme de loi, je suis un homme de droit. Mm-hmm. Et donc, la personne qui m'inspire, surtout dans le développement de ma deuxième carrière, je pense que c'est Mike Ward. Pas pour pas nécessairement pour son œuvre artistique, mais davantage parce que c'est un homme de conviction. Je connais pas l'homme personnellement, Mais ce que je vois, c'est que c'est un homme qui a toujours été honnête avec ce que lui pensait. A toujours, j'ai l'impression qu'il n'a pas changé sa démarche artistique pour plaire nécessairement à la radio, la télévision, toutes les productions de ce monde qui nécessiteraient un petit peu plus de politically correct. Mm-hmm. Malgré que quand il a commencé, il y en avait moins qu'aujourd'hui. Mm-hmm. C'est un homme qui m'impressionne dans sa force à aller contre vents et marées. S'il a allé contre vents et marées, parce que je pense pas que ça soit son choix premier de dire, moi, je m'en vais être polarisant, je m'en vais être contre toute attente. Au contraire, il est lui-même. Il est polarisant dans son style d'humour. De parler d'humour noir. Puis moi, je fais une différence entre l'humour noir et l'humour trash.
Okay.
Qui en fait, est pas, qui est pas vraiment, j'allais dire, c'est pas une forme d'humour, là. Le trash, ça existe pas. Mais on comprend que c'est de l'humour noir qui est de pas de bon goût. Mm-hmm. Donc, cet homme-là m'impressionne parce qu'il a toujours suivi ses convictions et sa démarche artistique, j'ai l'impression, a été moins altérée que plusieurs personnes qui voudraient à tout prix monter sur scène pour un gala juste pour rire.
Mm-hmm.
Exemple. Je ne le sais pas, peut-être qu'il l'a déjà fait, mais ce n'est pas l'impression qu'il me donne. Et où est-ce que j'ai été davantage interpellé, c'est sûr que c'est son histoire avec Jérémy Gabriel. Mike a jamais cessé de militer et d'engager les tribunaux pour se pencher sur le conflit. Je suis pas là, en fait, pour prendre position sur le conflit. Moi, je pense que c'est deux grands hommes qui vont avoir contribué à la société canadienne et sur la question des droits et libertés, hein, sur la liberté d'expression. Puis ça, c'était quelque chose d'extraordinaire pour le pays. C'est sûr que nous, on se le rapatrie au niveau du Québec, parce que c'est des Québécois, mais c'est tout le pays, tout le Canada qui gagne de cette saga-là. Mm-hmm. Pas eux, bien entendu, ils vont avoir sorti de là, écorchés, les deux parties vont avoir été écorchées, mais les grands gagnants là-dedans, je pense que c'est la société canadienne, la société québécoise, qui se veut avoir été plus loin dans les discussions au travers de la liberté d'expression.
Mm.
Et principalement, aujourd'hui, au Canada, on a les mêmes paramètres au niveau de la liberté d'expression. Et c'est grâce à ces deux hommes-là qui, de par le conflit, ont amené les tribunaux à se pencher. Et
ouais.
On a aujourd'hui leur juste sur les paramètres de la liberté d'expression.
C'est vrai.
Grossièrement, qui sont, on n'a pas le droit d'incitation à la haine, on n'a pas le droit d'incitation à la violence.
C'est comme si ça avait mis comme un cadre, ce débat-là, ça avait mis un cadre jusqu'où la liberté d'expression, qu'est-ce qu'on veut dire par liberté d'expression, les droits de la personne, c'est quand tu as dépassé la limite, parce que ça a été comme le verdict final, ça a expliqué, là, tu sais, ça a été quand même bien sur cinq.
Il y avait plusieurs volets.
Oui, c'est ça. Ça refait un retour sur toutes les règles pour mieux savoir sur quel terrain on joue, puis de voir aussi que le terrain. Il est glissant aussi certaines fois.
Tu as raison. Et ça l'a aussi fait réaliser aux gens qu'il n'y a pas un tribunal, même la Cour suprême, n'a pas prévalence sur le tribunal des droits de la personne du Québec. Mm-hmm. Ce qui était, pour moi, c'était une surprise. T'sais, moi, dans ma tête, sans avoir été vérifié, je croyais que la Cour suprême avait préséance sur à peu près toutes les autres cours au Canada, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et c'était intéressant de voir comment la Cour suprême a dealé aussi avec un jugement de culpabilité de la part du tribunal des droits de la personne au Québec.
Mm.
Fait que je pense les Canadiens ont gagné de tout ça. Malheureusement, c'est sûr que ça a laissé des séquelles, mais c'était nécessaire et ça l'est d'autant plus parce que le Québec est après aussi embarqué dans un mouvement de cancel culture, je ne sais pas comment le dire en français, de culture d'annulation, où est-ce que des groupes de personnes s'attarderaient à savoir qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, même si c'est à l'intérieur des limites de la liberté d'expression au Canada. Donc, on serait à même de juger par un groupe dans la société qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu peux pas dire. Puis c'est même pas en fonction des lois du pays, tu sais, ou de la permissivité de la loi. Et je trouvais ça d'autant plus important. Donc, c'est un homme qui m'inspire. Bien entendu, il y avait... Faut que je le mentionne, là, il y avait les moyens de ses ambitions, dans le sens que s'il n'avait pas été millionnaire, jamais il se serait rendu là, probablement, parce que ça coûte énormément d'argent de se faire entendre devant la Cour suprême. Et de ce que j'ai pu entendu dire également, mais c'est un homme très, très généreux, très altruiste. Il aurait parti un fonds aussi pour aider éventuellement quelqu'un qui aurait à se défendre dans un tribunal, dans un autre, pour un peu les mêmes questions litigieuses. Mm. Fait que c'est d'autant plus... je suis d'autant plus impressionné par cette personne-là qui ne s'est pas arrêtée au jugement, même si il est sorti de cette cause-là gagnant, qui va y laisser un legs davantage.
Mm. Puis justement, je trouve, avant que le verdict soit lancé, j'étais allée voir son spectacle à Mike Ward, c'est Noir.
Oui.
Et justement, ce qui était drôle, c'est parce qu'il était le sujet polarisé. Fait que c'est intéressant qu'il en ait pris la peine d'en parler. Ben oui, il prend la peine de nous expliquer où est-ce qu'il en est dans ses démarches. Puis il est capable de bien assumer aussi les actions, que ça a été fait, de le contextualiser, tu sais, d'écarter toute... confusion qu'on peut faire, que c'est pas, y a pas de haine entre les deux, là. C'est non. Vraiment pas penser qu'il y a un camp ennemi puis un camp.
J'ai jamais senti cette cause-là haineuse.
Mm-hmm.
Mais je l'ai senti diviser le Québec, bien entendu, parce que, puis je pense que c'est général. Y a pas personne qui voulait voir Jérémy Gabriel souffrir.
Mm-hmm.
Je pense qu'il y a pas personne qui veut voir un être humain souffrir. À moins que cette personne-là ait vraiment fait du mal. Alors, c'était vraiment plus administratif et idéologique que la cause en elle-même.
Mm-hmm.
C'est ce que j'ai trouvé phénoménal de se rendre jusqu'au bout des choses.
Mm. Puis justement, là, tu me parles de que Mike Ward, tu l'aimes bien parce qu'il t'inspire, ses convictions, il respecte, il a ses idées, il fonce tête baissée, il est pas là pour plaire aux autres. Puis là, ça m'amène à ma deuxième question, oui. Qui est un talent. Est-ce qu'il y a un talent ou un pouvoir que tu aimerais en lien peut-être avec... Qu'est-ce qui t'intéresserait à avoir?
J'aimerais ça lire dans la tête des gens. J'ai quand même une capacité de me connecter sur les émotions des autres comme d'une certaine façon ou de ressentir ce que l'autre personne pourrait ressentir ou pourrait penser. C'est pas une science exacte, là. Je me suis toujours référé à mon senti pour développer, aborder les gens ou me sauver de certaines personnes. Mais ce que j'aimerais davantage, c'est avoir la capacité de reconnaître ou de connaître l'intention de l'autre. C'est pas tout le monde qui est bienveillant. Puis on sait que chaque action est intentionnée. Donc, si je connais l'intention de la personne, si l'intention n'est pas bienveillante, je pourrais me soustraire tout de suite.
Mm-hmm.
Au lieu de le faire au milieu du projet, où est-ce que tu réalises que cette personne-là n'était pas bien intentionnée.
Mm-hmm.
Fait que ça permettrait de me protéger davantage. Puis, si j'ai des gros bras aujourd'hui, c'est une des raisons pour laquelle j'ai des gros bras, c'est parce que j'avais besoin de me protéger. Mm-hmm. J'avais besoin de me protéger. Pas de faire mal aux gens, mais juste d'avoir cette masque de muscles-là a toujours servi un peu à me préserver de, pas d'attaque, mais de gens qui pouvaient être moins bien intentionnés à ton égard.
Mm.
Fait que de lire dans la tête des gens, ça me permettrait aussi d'aller à la rencontre davantage de gens qui ont besoin d'une oreille, de besoin de, d'une chose ou d'une autre. T'sais. Il y a des gens que tu vas percevoir au départ que, oups, elle ne file pas. Mais si tu connais la raison pour laquelle elle ne file pas, c'est encore plus facile d'accepter, mettons, le comportement de l'autre personne, sa position, comment elle va se comporter.
Comme mon chat, est-ce que tu penses qu'on pourrait lire dans la pensée de mon chat puis savoir d'avance qu'il va sauter ou...
Non.
Non,
okay. Non, je pense que ce chat-là est imprévisible. Je vais commencer. Laisse-le glisser vers moi.
Okay.
Je pense que c'est correct.
Désolée,
je vais... Ah non, il n'y a pas de problème.
Okay.
As-tu de la gomme?
J'ai de la Juicy Fruit. C'est une bonne haleine.
OK.
Au pire?
Hein? Okay. Tu vois, je pense qu'on va être correct pour...
Là, il est dans son
cul. 10 minutes.
OK.
10 minutes. Ben, t'imagines-tu avec tout ce que je serais pris avec, si j'étais capable de lire dans la tête des gens?
Je sais pas.
Il y a des gens qui ont des pensées assez fucked up. Là.
Ouais, c'est clair.
Ou en fonction d'un besoin ou d'un autre. Ça serait pas juste à mon égard, mais ça serait envers à peu près tout. J'aurais de l'information. Je ne sais pas nécessairement que je serais prêt, à avoir toute cette information-là. Ça serait cool.
De lire dans la tête des gens pour prévenir ou savoir d'avant leurs intentions.
Oui.
Dans l'idée de te protéger si advienne que, ou d'aider, ça peut être aussi.
Ou d'aider, oui.
D'aider la personne si elle en a besoin, qui le démontre pas, mais que dans sa tête, ça tourbillonne, ça papillote. Fait que ça peut être. Ouais, j'ai jamais pensé à ça. C'est le premier super pouvoir qu'on me parle dire dans les pensées.
Oui, j'aimerais ça, parce que je suis un gars très sensible et moi, je veux que tout le monde soit heureux, je veux que tout le monde soit bien. Puis quand il y a quelqu'un qui est pas bien, j'aime ça savoir pourquoi. J'aime ça savoir pourquoi, puis si je peux aider. Donc ce serait un pouvoir de super-héros qui me permettrait d'aller à la rencontre d'autres personnes qui peuvent vivre des moments difficiles. Parce que des fois, c'est facile de dire, bon, cette personne-là n'est pas de bonne humeur. Il y a une raison pourquoi elle n'est pas de bonne humeur. Puis des fois, ça n'a pas rapport avec toi. Mais tu vas ramener ça à toi. Ah, si elle n'est pas de bonne humeur, c'est de ma faute, ou je me suis mal comporté, ou j'ai dit quelque chose. Mais des fois, c'est complètement extérieur à toi. Fait que ça permettrait aussi de
pas trop te sentir impliqué dans.
Oui, exactement. Dans de pouvoir te détacher de ce qui appartient aux autres aussi.
Ah, OK. C'est cool. C'est bon, ça. Le pouvoir de lire dans les pensées. C'est quand même large parce que c'est. En même temps, est-ce que tu pourrais contrôler toutes les pensées dans ta tête? T'aurais-tu un.
Non, je pense que je veux pas contrôler personne.
Non, mais dans le sens, pas contrôler la pensée de l'autre, mais comme dire, OK, là, à ce moment-là, je veux savoir qu'est-ce qu'elle pense. Puis là, off. Tu sais, là, c'est comme un piton on and off de ton pouvoir. Ouais. Il faut le dire, parce que, tu sais, on sait jamais. Là.
Il y en a qui se donnent pas de break non plus.
Oui, hein. C'est ça, il y en a. C'est ça.
Ils m'en donneraient pas, moi non plus.
Tu serais pas capable.
Puis là, tu te questionnes, est-ce que je suis normal maintenant? Parce que moi, je me pose pas le même genre de questions.
Mm-hmm.
Moi, j'ai pas le même genre d'opinion. Ou puis là, tu t'en mets en question.
Oui. C'était tellement ça. C'est parce que je m'imaginais dans un univers où que le génie que tu frottes la lampe, lui, il dit, OK, tu veux lire dans les pensées, mais il te le prend au pied de la lettre. Fait que tu vas lire dans les pensées, mais il n'y aura pas de off, là. Fait que tu vas, dans les foules, tu vas être submergé, tu sais, là, je me dis.
Oui, oui.
toi qui penses pouvoir faire le bien, finalement.
Je veux pas que ça sonne ésotérique, mais j'ai un peu cette capacité-là de me connecter sur les émotions des gens. Donc, si quelqu'un ne file pas, moi, à distance, je suis capable de savoir qu'il ne file pas. Je sais pas pourquoi. C'est un peu la raison pour laquelle j'aimerais lire dans les pensées, c'est pour davantage être capable de savoir pourquoi cette personne-là va pas bien, pourquoi cette personne-là va bien. C'est d'en savoir davantage avec cette capacité-là de me connecter sur l'énergie des autres. Mais dans une foule ou dans une place où est-ce qu'il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de colère, ben moi, ça draine mon énergie.
On te verrait pas au Centre Bell, mettons, exemple, si tu avais le pouvoir de lire dans les pensées, puis tu pourrais être submergé, on te verrait pas
En pensant, j'ai pas le pouvoir de lire dans les pensées.
Non, mais je veux juste spécifier, là, elles viennent dans un univers où que...
Ouais.
C'est bon de préciser, exemple, les
Et je vends pas rien d'ésotérique non plus, je vends pas de pierre d'énergie.
C'est juste son pouvoir, ça vient de son foulard. Tant qu'il l'a plus, un foulard, il devient ordinaire comme tout le monde. C'est excellent.
Non, mais j'ai trouvé que j'avais l'air d'un style artiste
oui.
européen.
Oui, c'est vrai, ça te donne un petit look européen, là.
Oui.
Comme frisquet, il fait frisquet, tu te couvres un peu le cou, là. J'aime
oui.
ça.
Ben, pour pas perdre ma voix.
Ah hein? oui, aussi.
C'est important vrai. Parce que quand on est un artiste, on peut pas perdre la voix. Ça serait terrible.
Ah, tu deviendrais un mime. c'est le pire qui peut arriver. Être un mime.
Il y en a qui ont fait leur carrière en mime.
Ah oui, c'est vrai.
Oui.
Oui, fait que c'est super.
J'essaie de me rappeler qui, mais
j'ai Marcel Marceau dans la tête, là, mais c'est un mime. Je sais pas s'il est européen, là, mais c'est dans mon bac en art dramatique. Là.
Est-ce qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui font le choix artistique de devenir mime? Ou le mime est maintenant incorporé dans la comédie physique?
Je pense que le mime est devenu inclus dans le comédie physique parce qu'il y en a un, là, TikTok, tu connais-tu? Tu commences à être là, non?
Je commence.
Tu commences, ok. Oui. Ben, c'est un influenceur très populaire, je connais pas son nom, là. Il vient d'Afrique du Sud, je sais pas. M'en souviens
plus.
Il parle pas du tout. Cet artiste-là ne parle pas et c'est universel. Tout le monde comprend ce qu'il veut dire. Tu parles français, japonais. Ouais.
Oui.
Tu comprends qu'est-ce qu'il pense. Tu comprends l'idée. L'absurde. En fond, lui, son but, c'est de montrer le côté absurde de la vidéo. Puis c'est par le mime, ses expressions faciales.
Ses expressions qui sont aussi absurdes.
Mm-hmm.
On comprend c'est quoi son intention ou sa prise de position. Face à ça, non, c'est vrai que c'est très intéressant, puis il est de plus en plus viral, hein?
Oui.
Les gens maintenant, je suis certain que personne ne connaît son nom, tout le monde connaît sa face.
Oui, hein? C'est clair. Je pense qu'il s'appelle Kaby, mais je ne suis pas sûre, là. J'ai quand même eu une idée, là, Kaby, mais vraiment, moi je trouve que c'est peut-être là que ça pourrait aller, là, l'humour, là, dans l'expression faciale, le mime, parce que Charlie Chaplin, c'est un des précurseurs...
Ouais.
Du mime,
des
films.
Ça, mettons, on se remet dans l'époque.
Mm-hmm. C'est vrai qu'il ne pouvait pas parler dans ce temps-là.
Est-ce qu'il pouvait enregistrer?
Je ne sais pas, je pense que la voix...
Est-ce que sur scène, Charlie Chaplin avait des textes?
Je ne sais pas, c'est une bonne question.
Bon.
C'est vrai que le son, il n'arrivait pas après. Il y avait la captation vidéo, mais peut-être le son, il n'arrivait pas. C'était comme, il était obligé de ne pas parler.
Je sais qu'à un moment donné aussi, tout ce qui était comédie, subissait une forme d'autocensure aussi, hein, parce que le sur scène, les propos étaient pas contrôlés, là, mais je sais que les artistes ne pouvaient pas aller au plein potentiel de leur démarche artistique, là. T'es souvent bloqué de par les mœurs ou pas les bien-pensants, là, mais l'État ou la religion, je pense.
Oui, c'est surtout la religion, tu sais, avec pas ton... ça me fait penser, là, tu me parles des lois, puis je pense au code, aux États-Unis, c'est le code ACE, qu'aux États-Unis, on pouvait pas filmer, exemple, un homme puis une femme qui s'embrassent. C'était pas toléré par la religion. Même chose pour les scènes de la salle de bain, c'était intime, la salle de bain. Puis justement, il y en a un qui a réussi à contourner les lois. Je sais pas si tu te rappelles de cette scène-là, c'est quelqu'un qui se fait... assassinée dans sa salle de bain, c'est une femme, puis on fait juste voir sa réaction dans sa... Ben, en fait, on sait qu'elle est dans la douche, puis on la voit juste comme à faire des grimaces, puis à mettre les mains qui coulent sur le rideau. Fait que ça, c'était la première scène qu'ils ont fait comme, « Hey, c'est dans une salle de bain, il a réussi à contourner les lois.
Ouais. »
Puis c'est tellement... Ça a été une des scènes les plus populaires au cinéma. Hein.
Mm-hmm.
Je pense que c'est Stanley Kubrick, je crois, qui a fait ce film.
Qui a produit ça.
Ouais. 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 Mais les lois, des fois, ça nous oblige à être plus créatifs, on dirait.
Ouais.
Hein?
Aujourd'hui, ça semble être plus difficile à être créatif de façon à respecter. Ben, non, je peux pas dire ça parce qu'il y en a qui vont au bout de leurs idées, là, puis ça dépend de la plateforme dans laquelle tu t'exprimes. Je pense pas que personne souffre de pas avoir sa voix entendue sur une plateforme ou sur un autre, mais on le sait très bien qu'à la télévision, ben maintenant, on fait la gestion de contenu.
Mm-hmm. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de captation qui est coupée dans la télé.
Oui.
Justement, au prochain stand-up, il y a une fille qui a été au prochain stand-up, puis elle m'a dit qu'il n'avait pas mis tout au complet son numéro, qu'il avait enlevé les gags, qu'elle a jugé full bonne, mais qu'à la télé, ça passait pas. T'sais, ils ont dû y enlever.
Et dans ce temps-là, c'est plus difficile.
Mm-hmm.
Plus difficile pour te faire valoir parce que, en fait, une des façons de se faire valoir comme humoriste, c'est le rire des gens dans la salle. Fait que s'ils t'ont gardé toutes tes blagues un peu moins fortes ou maintenant ça rend une blague hors contexte, mais elle va être de toute évidence moins forte pour quelqu'un qui fait juste entendre cette blague-là.
Mm-hmm. Exactement. Mais c'est un double un couteau à double tranchant à la télévision.
Est-ce que tu t'inscris au prochain stand-up?
J'ai pas pensé. Ben, Val Bézil m'a super. Est super gentille. Elle me dit si t'as des questions, viens m'en parler. Ça trotte dans ma tête pour l'instant. On dirait que j'ose pas parce que je me dis, je suis pas. Tu sais, les personnes qui vont là-bas, ils ont plein de matériel. Moi, je suis encore en train de roder les mêmes sujets.
Il y a des gens qui vont là qui ont juste un numéro. Ils vont passer au travers de la première ronde. Après ça, on s'essayait avec les odeurs. Beau lapsus.
Ouais.
Avec les auteurs qui, eux, ont des odeurs pour essayer de passer en deuxième ronde. Parce que je pense que une des choses très positives de la production, c'est que chaque artiste se veut être, accouplé. Ça veut être associé qu'un auteur de la production, ce qui fait que ton numéro pourrait se voir être pimpé, changé, modifié, mais pas accouplé.
Ça dépend, certains réussissent aussi en plus
à s'accoupler.
Ouais. René Angéril puis Céline Dion, je pense juste à ça, mais il y en a d'autres là aussi.
Tu veux pas avoir mon opinion là-dessus?
Non.
Vraiment le film Aline, by the way, qui est plus en salle. Hein? C'est plus
non,
en salle.
Je pense que c'est plus en salle.
Je sais pas si Netflix va l'acheter.
Ah, c'est une bonne question. Je crois que Prime, Amazon, je sais pas, je
Amazon
sais qu'on
Prime, peut.
Ouais, je crois qu'il l'a.
Ah oui?
Je crois, mais je suis pas sûre. Je sais que ma grande sœur a le Amazon Prime, Disney+, puis Netflix, puis elle a pu l'écouter là-dedans. Là.
Okay.
Un des trois, je sais pas lequel.
Okay.
Aline,
allez pas voir ça en salle. C'est pas là.
Non, c'est gratuit ailleurs.
Céline a réussi à le faire sortir des grandes salles.
Ouais, exactement. Oh my God, c'est tellement... OK, fait que... Puis là, on est rendu au troisième. On va shifter au troisième, oui. Là. Un moment. Donc, pas ta mère, là. Un moment que t'aimes le plus, que t'aimerais revivre. Et pourquoi? Ben, ça peut être ta mère aussi.
Ouais. Un moment que j'aimerais revivre, hein? Hey, je... J'aimerais ça retourner à la guerre.
Ah,
pour vrai.
Ouais.
Pour vrai. Okay. Pas pour vivre nécessairement un événement traumatique, mais comment je pourrais dire ça? Là, j'en perds mes mots, mais j'aurais envie de retourner au combat, l'instant de vivre l'adrénaline que ça procure.
OK.
Je sais que c'est weird, ça peut être fucked up, mais plusieurs anciens combattants vont nommer ça, de pouvoir retourner en opération, vivre une journée d'opération, parce que c'est un sentiment qui est inexplicable.
Mm.
Puis des fois, je fais un grand parallèle avec la scène. C'est une des raisons pourquoi je me suis dirigé vers la scène, c'était pour substituer ces moments-là d'adrénaline, où est-ce que tu es en danger, où est-ce que tu vis des sensations fortes, et c'est difficile à remplacer.
Mm-hmm.
Et puis une fois que tu n'as plus ça dans ta vie, c'est une forme de drogue. C'est, mm-hmm. c'est un besoin qui est constamment là de vivre des sensations qui peuvent être similaires à ce qui peut être vécu en opération. Je vais parler pour moi, mais la préparation au combat, tout ce que ça peut impliquer, tout ce qui peut passer dans ta tête par rapport au scénario, qu'il soit positif ou négatif, c'est difficile d'aller à côté ce genre d'émotion-là. En plus de que tu ne le fais pas seul, tu le fais avec un groupe, tu le fais avec des moyens qui te semblent être suffisant pour sortir de là gagnant. Donc, la peur est là, mais la peur n'est pas tant là dans le sens que, moi, pour ma part, on avait la suprématie des airs, donc il n'y avait pas d'autres factions qui avaient des drones ou des hélicoptères ou des avions qui allaient être contre nous. Et somme toute, la perception de la menace, elle était là. Mais elle n'était pas comme à l'époque de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale. T'sais, même si l'ennemi était difficile à observer ou à trouver parce qu'il n'y avait pas d'uniforme comme tel. Je ne sais pas si j'apprends quelque chose aux gens aujourd'hui, mais les, Al-Qaïda ou les talibans n'avaient pas d'uniforme. Tu sais, ils étaient un peu ramassés de n'importe quoi. Donc, c'était difficile de trouver qui étaient les méchants, qui étaient les bons. Puis des fois, entre un paysan et un taliban, ben à l'œil nu, tu voyais pas la différence. Donc, cette menace-là, asymétrique, te mettait toujours dans un mode d'hypervigilance. Et dans un mode d'hypervigilance, tu sais, j'en parle, puis je suis comme excité, mais c'est quelque chose qui goûte bon.
Mm-hmm.
Quelque chose qui goûte bon.
Mm.
Parce que tu es en contrôle, parce que rien qui t'est arrivé encore de difficile. Donc c'est weird. En même temps, j'aurais le goût de revivre ça, mais en même temps, je sais c'est quoi les conséquences de vivre, exemple, une embuscade. Ça peut être très épeurant, ça peut être, t'es pas en contrôle de rien. Puis probablement, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je le vois d'une façon positive, si je veux le revivre, là, je pense que c'est seulement au niveau du fait que oui, je suis sorti avec un syndrome post-traumatique, mais je suis capable de vivre une vie, somme toute, équilibrée aujourd'hui. Donc, l'impact n'a pas été, je devrais pas dire ça, si grave que ça, là, parce qu'il y en a des conséquences à tous les jours, mais je ne sais pas où est-ce que je m'en vais avec mon propos.
Mais l'impact, dans le fond, tu penses que l'impact est quand même important, mais dans le sens, il aurait pu être pire? Est-ce que c'est dans cette
voie-là? Oui, c'est sûr que ça aurait pu être pire. J'aurais pu sortir de là avec aucune émotion positive ou émotion agréable, ou même si j'avais été plus magané, est-ce que je sais pas, faudrait poser la question à quelqu'un d'autre, mais même si j'en suis resté marqué, c'est une place quand même que j'aimerais retourner.
Mm-hmm.
De pour toutes les émotions intenses que ça peut procurer. Puis là, je vais faire abstraction, faire du mal à quelqu'un, là. Juste le... Je ne sais pas si ça va être bien interprété, mais c'est ça, c'est une expérience unique, des émotions incroyables.
Que tu peux pas revivre. Je ne sais pas quoi dire.
Être clair, Coralie, j'ai l'impression que ça se vit davantage que ça se raconte, parce que au fur et à mesure je le raconte, tu sais, la guerre, c'est pas beau. On fait pas des belles choses. J'ai des amis qui sont décédés. J'ai plein d'animosité face aussi à ce qui a pu se passer là-bas. Mais en même temps, je peux pas faire abstraction qu'il y a une partie de moi, à un moment donné, là, qui était euphorique à faire ça. Puis c'est comme une... C'est fucké, c'est une dualité. Mm-hmm. C'est
je peux pas comparer, mais je sais qu'une expérience que j'ai vécue qui peut pas se comparer à la tienne, mais que je peux essayer peut-être de verbaliser, qui est vraiment le paintball, là. Mais là, c'est parce que c'est le paintball, c'est l'idée que tu sais, t'as un fusil à peinture dans les mains, tu peux vivre des embuscades, tu peux te faire tirer à tout moment, tu peux voir du monde tomber,
il y a le risque,
il y a l'adrénaline de vouloir survivre, d'être en contrôle de la situation, dans le sens que tu peux te cacher où tu veux, tu vois, il y a comme des manœuvres, il y a plein de manœuvres que tu peux effectuer, que tu sais que c'est pas être safe pour toi, là.
Ouais.
C'est
je pense que la seule différence, c'est que le paintball ne peut pas avoir. Puis tu as raison, il y a beaucoup de similarités. C'est l'aspect humain que souvent tu vas penser après coup dans les opérations de guerre, que tu ne penseras pas systématiquement parce qu'il y a plusieurs autres besoins de base qui rentrent en ligne de compte. Mais par la suite, un coup que tu en sors, puis ça fait partie de la blessure, tu te mets à réfléchir si d'un point de vue humain, t'as fait de la bonne chose, si tu es capable de vivre avec toi-même pour le restant de ta vie, si comment les autres êtres humains réussissent à vivre une fois que les opérations sont terminées. Il y a beaucoup d'imports d'errants. Fait, dans le fond, mon propos, c'est oui, j'aimerais ça revivre ça, mais pour un aspect, c'est le feeling de l'opération avec avec ton équipe de travail et d'en sortir de là le moins magané possible.
Mm-hmm.
Mais quand on pense plus loin à l'aspect humain, c'est sûr que je voudrais pas vivre ça, sachant que l'humain, avec un grand H, a des répercussions face à ça.
Mm-hmm.
C'est ça.
Tu, à un moment donné, tu as parlé de...
Ça serait pas égoïste de ouais. Mais ça serait égoïste pour moi de penser que je voudrais revivre ça avec les conséquences que ça peut avoir sur les êtres humains.
C'est plus dans le ressenti, les émotions que tu voudrais revivre parce que c'est quelque chose qui t'attire, qui t'aimerais revivre, mais non les conséquences de tes gestes ou les actions.
Ouais.
C'est plus l'émotion sur la situation par rapport à ce que tu vis présentement.
Exactement. C'est comme c'est une émotion de... Faut que je m'en sorte.
Mm-hmm.
C'est une émotion de j'ai besoin de vivre. Donc, cette urgence de vivre-là aujourd'hui fait partie de moi.
Mm-hmm.
Ça fait partie de moi. Puis c'est important pour moi de vivre en pandémie. Davantage avec les restrictions et le confinement. Moi, je me suis vu mourir un peu à tifu, là.
Mm-hmm.
Parce que j'avais pas la possibilité de vivre de sensations fortes.
Mm-hmm.
La scène, pour moi, est ce qui se rapproche le plus de ce que j'ai besoin en fonction de ce que j'ai vécu. Puis, je souhaite le vivre le plus longtemps possible. Et encore aujourd'hui, quand je me prépare à monter sur scène, mon cerveau, de façon inconsciente, se met en hypervigilance. Puis, ça me met dans un esprit de combattant, d'une certaine façon, sans être menaçant pour personne, sans avoir envie de combattre les gens. Mais les mécanismes sont les mêmes sur moi aujourd'hui, je pense, par rapport à ce que j'ai vécu. Et c'est quelque chose avec lequel il faut que je deal avant de monter sur scène, parce que mon attitude doit pas être en fonction d'aller combattre, mais d'aller donner un spectacle. Fait que c'est tout ça qui est à moduler, même si mon cerveau, de façon inconsciente, fait un certain travail.
Mm-hmm. Qui assimile la situation comme si tu étais en combat. Ben, comme si tu étais sur le terrain, alors que non, tu n'es pas sur le terrain.
Non, c'est ça. Juste...
Mais les émotions, le ressenti est similaire. C'est pour ça que ton inconscient a de la difficulté un peu à...
Oui, je suis capable de faire la part des choses. Je suis capable de je tombe pas dans des flashbacks où je j'ai pas une dissociation. Je suis pleinement ouais. conscient de ce qui se passe. Mm-hmm. Mais ce que je ressens face à faire mon métier d'humoriste, peut avoir beaucoup de ressemblances avec ce que j'ai déjà fait.
Tu parles de...
De certains égards.
Ça parle... Là, je retiens une sensation forte,
ouais.
comme quoi c'est quelque chose qui te permet de l'urgence de vivre.
Ouais.
Puis ça me fait penser à des fois, il y a d'autres personnes...
Je vais t'expliquer un petit peu plus davantage, c'est que les sensations fortes me permettent de me sentir vivant, parce que aussi, un des symptômes que moi j'ai, c'est que je suis un peu déconnecté émotionnellement. Donc, de vivre ces grands rushs d'adrénaline-là me permet de me sentir vivant davantage. Donc, il est vraiment là le lien.
Mm-hmm.
Tu sais, parce que sinon, je ressentirais, mais je ressentirais pas comme je pouvais ressentir quand j'étais jeune.
Mm-hmm.
C'est probablement ce qui m'a coûté le plus cher de ma carrière militaire.
Mm-hmm. D'avoir coupé tes émotions.
D'avoir perdu une partie de du contact avec mes émotions, de ressentir mes émotions, la capacité de ressentir mes émotions.
Ça doit être un travail à faire. C'est ce que c'est. Par la suite, je sais qu'il doit y avoir des ressources pour ceux.
Oui, j'ai passé au travers de toutes les ressources qui étaient possibles et inimaginables. Et puis ça a fonctionné. J'ai une reconnexion réelle avec mes émotions. Mais à quel pourcentage, je ne serais pas capable de te le dire. Je sais qu'il y a une perte, il y a un manque à combler. Et mon objectif, c'est d'essayer de récupérer toutes ces sensations-là. Tu sais. Puis une des façons de faire, c'est si je vis une émotion, ben, je vais me forcer pour la vivre à fond.
Mm-hmm.
De ne pas refouler les émotions. Parce que si tu refoules, c'est là où est-ce que tu te coupes davantage.
Mm-hmm.
Donc aujourd'hui, je me prive pas de pleurer pour une raison ou pour une autre. C'est souvent, même aujourd'hui, je vais pleurer davantage pour les belles choses mm-hmm. que pour les mauvaises choses.
Mm-hmm.
C'est une réaction normale? Je ne sais pas.
C'est une bonne question, mais je sais que notre société, c'est dans les émotions, la tristesse, c'est souvent une émotion qu'on réprime ben, au Québec là, ou ailleurs, j'imagine, qu'on réprime. Par exemple, j'ai parlé à une personne du Uganda, puis elle, dans son... Là-bas, au Uganda, elle disait que c'était pas bien de montrer qu'on a peur. C'est pas bien qu'on est triste. Fait que de montrer qu'on a peur ou qu'on est triste, c'est un signe de faiblesse.
Parce qu'il y a des conséquences aussi.
Parce qu'il ouais, il y a comme des conséquences. Ben, elle a parlé plus de quand elle a vécu la guerre quand elle était jeune.
Mm-hmm.
Et que si ses parents y avaient peur, ils savaient que ça transmettait ça aux enfants. Fait que c'était de réussir à couper son émotion. Puis que là, ça perpétue, là, ça a comme des effets secondaires dans sa vie,
mm-hmm.
puis de se reconnecter avec ses émotions, puis d'accepter que c'est correct de pleurer en public, c'est correct de ressentir de la peur. C'est dans ce chemin-là qu'il est en train de redécouvrir, là, présentement. Mm-hmm. Puis je trouve qu'ici, au Québec aussi, la tristesse, qui est une émotion totalement légitime, parce que ça permet de... La tristesse, ça te permet de te montrer qu'il y a comme... Le chapitre est terminé, je sais pas comment l'expliquer, puis de passer à autre chose.
Oui, mais je pense que tout le monde le vit différemment.
Mm-hmm.
Et tu me fais penser à tous les immigrants qui ont été un jour enfants soldats ou les enfants qui ont été pris au travers de conflits armés dans leur ville, dans leur pays d'origine.
Mm-hmm.
On ne donne pas assez de place, je pense, au Québec à ces gens-là qui aujourd'hui souvent sont rendus adultes sur leur expérience puis l'impact que ça a eu de vivre dans un climat comme ça, dans un conflit là, dans leur pays d'origine.
Mmh. Fait que c'est,
en fait, je pense que le 11 novembre devrait donner la place aussi à ces enfants-là ou ces jeunes adultes-là qui ont été pris au travers de la guerre, puis de comment ils ont pu s'en sortir, comment ils ont réussi à faire leur chemin au travers d'un environnement... complètement instable.
Mm-hmm.
Mais c'est des fois, c'est même pas des fois les conditions pour montrer ses sentiments, ses émotions aux autres, les nommer. C'est même, des fois, c'est même pas la guerre. Des fois, c'est juste un pattern qui se répète. Parce que là, je pense à une télésérie, ça s'appelle Si on s'aimait.
Oui.
C'est des couples qui se rencontrent, puis qui doivent. Leur but, c'est de briser leur pattern. Puis dans un des couples, le monsieur, lui, son père, il a jamais dit qu'il l'aimait. Fait que là, son père, là, il est décédé, puis mm-hmm. il n'a jamais dit qu'il l'aimait. Puis là, en ce moment, il ne l'avait jamais dit à son fils.
Tu parles de Tim.
Oui. Tu le connais?
Oui, j'écoute la série.
Je ne savais pas.
J'aime beaucoup, beaucoup la série.
Oui, OK.
Ouais. J'aime pas, en fait, Guillaume Lavetivierge qui démontre à quel point il n'est pas naturel
okay.
dans ses propos. Mais j'aime beaucoup, beaucoup le travail de Lee Sigouin et du travail qui est fait avec les...
avec les... Ils sont là.
Ben, je veux dire les couples, là, mais il y en a qui sont là... de façon individuelle, puis suit un cheminement qui est plus personnel au travers d'une relation humaine. Là.
Mm-hmm.
Parce que c'est pas nécessairement des couples, mais j'adore cette série-là.
Oui, moi aussi, ça m'a fait pleurer parce que, tu sais, là, Tim, je le dis d'avance, là, Tim, là, finalement, il a réussi à dire à « je t'aime » à son fils ouais. pour juste se libérer. Puis ça, le fils, quand on l'a filmé, cette captation-là, ça a été tellement beau à voir.
Ouais.
De le savoir, puis en même temps, qu'est-ce qu'elle disait, Lise Sigouin, c'était qu'elle vient de briser, il vient de briser un pattern de toute sa famille, parce qu'il le dit à son fils, puis son fils, il a déjà un fils aussi, fait qu'il va être peut-être plus enclin à dire aussi, je t'aime à ton fils.
Ça fait comme casser un pattern.
Ouais. C'est ça.
Ouais.
Fait que des fois, des émotions, c'est peut être relié à un événement important dans sa vie, mais ça peut être aussi relié à quelqu'un ou un comportement qu'on est habitué de vivre, de famille en famille.
On a compris aussi que les comportements humains à différentes époques n'est pas rendu aujourd'hui, mettons, un enfant qui commence à évoluer dans la société qu'on est aujourd'hui, une société plus évoluée, mais c'est sûr, de la difficulté à comprendre quelqu'un comme Tim qui vivait à une époque où est-ce que les émotions, mm-hmm. ben, ça ne devait pas être partagé. Tu sais?
Mm-hmm.
En tout cas, du moins, les émotions négatives devaient être cachées.
Oui, elles devaient être cachées. Puis c'était souvent aussi pour le « ben, il doit le savoir ». Ben, comment il sait, ben, je fais ça, mais est-ce que tu as dit?
Ouais.
Là, c'est entre le faire et le dire, ça devient une autre chose.
Mais j'ai dit, ouais, je t'aime à mon père, tard dans ma vie aussi.
Mm-hmm.
Vraiment tard. Puis, j'avais pas réalisé à quel point mon père, mes missions en Afghanistan, ça l'avait affecté. Parce qu'il me l'avait jamais dit, me l'avait jamais démontré. Puis, je comprenais pas pourquoi ma dernière mission a duré 10 mois en Afghanistan, en 2007-2008. Et je réalisais pas pourquoi mon père était si fâché que je m'en aille encore en Afghanistan. Parce que c'était moi qui l'avais choisi. Je m'étais porté volontaire à vivre une dernière mission comme fantassin, parce qu'après ça, je m'en allais comme policier militaire. Et il était vraiment fâché. Et c'est plus tard dans ma vie qu'il m'a expliqué que, et tu ne sais pas à quel point, pour un père de famille, ça peut être épeurant. Je pensais pas pleurer ici aujourd'hui.
C'est correct, tu peux. Fais-le. Il faut.
Je m'excuse, c'est correct.
Non, faut pas s'excuser.
Puis là, tu vois, je fais le contraire à ce que j'ai dit tantôt, que je me bloque.
Ouais.
Mais il disait que je réalisais pas à quel point ça pouvait être épeurant pour un père de voir son fils partir en guerre.
Mm-hmm. C'était une façon de te dire qu'il t'aimait dans cette façon-là, qu'il tenait à coup de toi.
Exactement.
Qui avait. C'est quand même beau.
C'est très beau.
C'est très beau.
Fait que c'est des choses que je ne pouvais pas, moi, réaliser parce que je n'ai pas d'enfant, mm-hmm, bien entendu. Mais c'était comprenable une fois qu'il me l'avait expliqué. Et notre relation s'est grandement améliorée, justement, avec cette ouverture-là, avec de se donner la chance de communiquer nos émotions. On n'a pas été au bout, je pense, de ce que moi j'aurais souhaité, mais c'était suffisamment, quand mon père est décédé, pour être en paix. Tu sais, souvent, les parents vont décéder, puis certaines personnes vont regretter de ne pas avoir dit certaines choses, de ne pas avoir fait certaines choses. Moi, par l'entremise d'un de mes bons amis, j'ai pris mon courage à deux mains, puis je suis allé justement défoncer ce mur-là qui m'avait aussi été enseigné, hein, de par mon père pour briser ce comment qu'on disait ça tantôt, ce cycle-là.
Ce cycle-là, oui, le pattern.
Fait que c'est sûr que moi, je me voyais aussi dans Tim, mm-hmm, si on s'aimait de cette façon-là. Anyways,
c'est ça, je parle souvent d'émotions, je trouve que c'est intéressant d'en parler parce que j'enseigne, dans le fond, à une clientèle, justement, qui comprend pas les émotions. Mais ils comprennent les émotions, mais c'est un sujet très abstrait. C'est des élèves en adaptation scolaire, puis leur expliquer comment décoder le langage non-verbal, comment tu peux savoir si la personne est fâchée, ou comment l'aider à nommer ses émotions, comment on peut savoir que t'es fâchée. Ben, je sais pas. Ben, est-ce que la personne a les bras croisés, les sourcils froncés, est-ce que... Tu sais, c'est de nommer puis de trouver des exemples. OK, oui, il est fâché, mais dans quelles circonstances on peut dire que la personne est fâchée?
Oui.
Puis d'être capable de lui faire nommer. Dans le sens que, il y a un élève, lui, quand je lui disais, il ressent pas la tristesse. Il ne connaît pas ce qu'est la tristesse.
OK.
Là, j'essaie de nommer des exemples. Ben, quand, exemple, tu perds ton cellulaire, t'es triste? Non, je suis en colère. OK. Quand, exemple, tu perds quelqu'un à qui tu tiens beaucoup, comment tu te sens? Je suis en colère. Donc, pour lui, la tristesse n'existe pas.
Mm-hmm.
Peu importe que ce soit des situations qui sont censées, il est censé éprouver de la tristesse, il nommait la colère. Fait que là, c'était, là, rendu là, tu vois qu'il y a incapacité à vivre cette émotion-là, puis de trouver un sens,
mm-hmm,
c'est comme...
Puis la définition, ouais, qu'il en a trouvée, c'était la colère.
Mm-hmm. Donc, lui, il avait quoi? Colère et joie.
Est-ce que parce qu'il n'avait pas la capacité, selon toi?
Je pense que c'est juste... Ouais, peut-être
ça n'a pas été développé?
Ça n'a pas été développé, je pense, à ce moment-là. Soit peut-être parce que, des fois, ça peut être... Je ne veux pas dire que c'est à cause des parents, là, mais des fois, c'est des comportements qu'il a vus, que peut-être qu'il n'a jamais, comme quelqu'un... Tu sais, la gestion des émotions, là, c'est... c'est pas tout le monde qui sont capables de contrôler ça, là, que ce soit un enfant en adaptation scolaire ou un autre enfant, là, peu importe, nommer des émotions, c'est tellement abstrait, puis c'est là le rôle du parent ou d'une personne à côté de l'aider, là, t'sais. Ouais. Exemple, il pleure, il faut lui nommer. Tu pleures, tu es triste. Là, de le faire nommer, oui, je suis triste, pourquoi tu es triste?
C'est une démonstration.
C'est ça, ouais.
Au lieu d'utiliser la violence comme démonstration.
Oui, c'est ça.
Ou la rancœur de par une conséquence X, Y, Z.
Mais ouais. c'est pas non plus évident de tu sais, la tristesse, c'est quand même aussi abstrait aussi dans un certain sens. Mm-hmm. Parce que ça dure, tu sais, une émotion, ça dure vraiment pas longtemps, là, ça dure comme 10 secondes dans ta tête, là.
Donc, les programmes à l'école devraient être orientés aussi dans la découverte de ces émotions et la capacité de les communiquer.
Puis c'est souvent ça, dans le fond, dans mon métier, j'essaie de leur faire découvrir c'est quoi les émotions, parce que, ben, en dramatique, les personnages, quand on les exagère, ben, il faut exagérer l'émotion. Fait que trouver des façons, moi j'aime ça, là, trouver des façons ludiques de leur démontrer que c'est drôle faire la tristesse, c'est comme si ça...
Même si c'est overjoué?
Oui, même si c'est overjoué, c'est comme s'ils prenaient, il y avait comme au moins un lien, au moins quelque chose... À quoi se rattacher ou des comportements qu'ils peuvent copier. T'sais, mettons, il y a un exercice que je fais semblant d'échapper mon cellulaire par terre, il brise. Fait que là, je démontre la tristesse, mais fois mille. T'sais. Fait que là, ils doivent me copier, puis là, rendu là, ça fait rire les autres. Fait que là, il y a comme l'acceptation de cette émotion-là. Je sais pas s'ils sont capables de la vivre réellement pour de vrai, sans exagérer.
Certains oui, certains non. Je pense que ça dépend, t'es dans quel mood aussi. T'sais, par rapport à le fait que ma charge émotionnelle face à ce que j'ai raconté sur mon père, tu sais, maintenant, avec l'expérience, je sais que c'est pas étranger non plus à ce que j'ai raconté un petit peu plus tôt avec ce que j'aimerais revivre. C'est sûr que il y a des images qui sont venues dans ma tête, qu'il y a des émotions qui sont venues dans mon corps, puis ça a créé une charge émotive. Ça nourrit d'autres émotions que tu vis au fil de ta journée. Là. Tout ça est interconnecté. C'est pas parce que tu as vécu un événement au début de ta journée que l'événement, mettons, au courant de ta journée, où est-ce que tu vas vivre une émotion, ne sera pas nourri par aussi cette charge émotionnelle-là qui a pu être... qui n'a pas été vécue au complet.
C'est comme un réservoir d'eau que tu n'aurais pas vidé.
Oui,
exactement. Puis qui déborde à un moment donné. Pour une situation X qui pourrait être banale pour certains, mais qui ne savent pas que la charge qui était là, l'accumulation, qui fait en sorte que là, ça sort, puis ça sort mauvais, là.
Oui, mais ça sort avec la charge émotionnelle qu'il y avait. Ouais.
Exactement, fait que si...
Mais suite à cette charge émotionnelle-là, moi, j'essaie toujours d'en tirer un positif. T'sais, parce que veux pas, c'est comme un release, c'est une façon d'évacuer. Donc, si tu évacues, forcément, il y a quelque chose de positif là-dedans, parce que ça laisse de la place à d'autres choses de rentrer. Et la scène aussi va aller combler ce besoin-là de me nourrir de choses positives. Donc, rarement, tu vas me voir faire un numéro où est-ce qu'il va avoir une charge négative pour aller toucher les gens ou tout simplement pour en parler, tu sais. Je vais essayer toujours de me rapprocher de ce qui va être émotionnellement positif. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je cherche à faire davantage des gains émotionnels positifs. Pas parce que ça ne me tente pas de tomber là-dedans ou je ne serais pas capable de le gérer, mais parce que j'en fais le choix de sortir de la scène avec une charge émotionnelle positive, agréable, plutôt que ben, je vais aller toucher les gens. Parce que, veux pas, ça va me mettre aussi dans un mood, dans une émotion qui va être peut-être différente de celle que je souhaite vivre à toutes les fois que je monte sur scène.
Mais en même temps, si, exemple, tu as un propos un peu plus, comme peut-être plus négatif, si, exemple, tu pourrais faire en sorte de le retravailler puis de le rendre après par la suite positif.
Oui. Ça n'est pas toujours comment ça te marque à la fin.
OK.
Ce n'est pas toujours ce qui reste. Fait que si ce qui reste une fois que tu es sorti de scène, c'est juste le positif, tant mieux. Tu vas avoir accompli, tu vas faire une pierre deux coups. Mais si tu es neutre ou tu es t'es partagé entre l'émotion positive, l'émotion positive et l'émotion désagréable, ben, c'est à l'artiste de décider qu'est-ce qu'il a envie de vivre une fois sorti de scène. Parce que sur scène, je pense pas qu'on le vit davantage, mais c'est plus après coup, en tout cas pour moi.
Que tu vis.
Je le vis sur scène, tu sais, je le vois, mais l'impact est encore plus grand, je pense, une fois que tu sors de scène. Puis en plus, quand tu as fait une bonne job, quand tu as réussi à te valoriser là-dedans, ben écoute, c'est le summum.
Oui, c'est vrai. Tu te sens comme accompli à la fin. C'est comme si.
Oui, tu te sens accompli. Comme... T'as de l'estime de toi.
Ouais.
T'as dit mon travail a été bien fait parce que moi, je suis satisfait. Les gens semblent satisfaits. Puis on avance là-dedans. En fait, si on fait de la scène, c'est pas simplement pour soi. Là.
Mm-hmm.
C'est pas juste égoïste. En tout cas, dans mon cas, c'est pas. Je le fais aussi pour la rencontre des autres, des personnes.
Mm-hmm. Leur faire vivre des émotions aussi.
Oui, oui, oui.
Si on fait un retour à la gestion des émotions.
Oui, et si on fait un retour aussi à ce que tu as dit au début, j'aime ça être polarisant.
Oui, là,
j'aime ça susciter des réactions. Et j'aime ça susciter des réactions qui vont finir en émotion agréable.
En émotion agréable.
Ouais.
Ah, mais moi, je trouve que ça finit bien un podcast. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, super.
Ouais?
Ouais.
Ben, on va arrêter ça là. Écoute, merci de ton ouverture, Sivun. C'est vraiment pour moi un privilège d'avoir assisté à tout ça, là, d'une expérience de la conversation profonde. C'est vraiment. Je trouve que je suis toujours sortie de là avec une autre idée ou grandie. Je sais pas comment expliquer.
Ouais. Ben, ça fait du bien partager.
Oui.
Hein?
Puis
ton poster.
Oui.
Ben, un bon moment, c'est ce que j'ai passé avec toi.
Oh.
En ta compagnie. Merci infiniment pour la générosité que tu as envers nous.
Merci. Puis je te souhaite passer une belle journée.
Merci, toi aussi. Merci à tout le monde.
Bye, là.
Désolé pour le breakdown.
Non, il n'y a pas de breakdown. De quoi tu parles?
c'est déjà tout pour notre épisode d'aujourd'hui. T'as pu entendre la petite musique de fin, hein? Moi je l'aime bien. C'est un bon signal pour dire que le moment que tu passes avec moi est presque terminé. Mais avant de raccrocher, avant de fermer tous tes écoutilles, fermer ton cellulaire et arrêter de m'écouter parler, je veux vraiment encore te remercier pour ta présence, ton écoute aussi. On a tellement vécu un beau moment comme ensemble. Tu as pu le voir avec Sivun Bilodeau, à cœur ouvert, super généreux de son temps. Je veux dire que là, c'est pas terminé parce que la semaine prochaine, je vais faire une chronique, hein? Donc, une chronique où je vais encore sortir de ma zone de confort, où je vais essayer de parler d'un sujet qui me tient également à cœur, qui est très présent dans ma vie en tant qu'humoriste, c'est le féminisme. Donc, vraiment, tu sais, on sait, là, l'humour, c'est un métier qui est majoritairement occupé par des hommes. Mais en tant que femme humoriste, être féministe, c'est vraiment de trouver sa place dans le milieu, de connaître des nouvelles personnes qui ont les mêmes valeurs que toi. Je sais pas, le féminisme, c'est... On voit toujours des personnes qui sont super militantes, super extrêmes. Puis on a toujours l'image des femmes, mais ça peut être aussi des hommes qui peuvent être aussi féministes. Dans les deux parties du cas, c'est prôner l'égalité des genres. Que ce soit un homme, une femme ou n'importe qui, c'est d'être toute égale à sa façon. Donc, c'est ça que ce sujet, j'ai envie d'aborder dans ma prochaine chronique. Tous les mercredis, l'épisode est disponible sur YouTube et Spotify. N'hésite pas à liker, partager. Toujours plaisant d'avoir des nouveaux auditeurs et auditrices. Je me sens un peu à la radio, puis j'aime ça. En tout cas, je m'appelle Coralie Dubot. Je suis humoriste et à bientôt!